Excellence, Monsieur Upiokakura, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre congolais des droits humains, vous venez de Genève, où viennent se tenir les travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En plus bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces travaux?
Oui, je voudrais d'abord préciser que la réunion qui s'est tenue à Genève, c'est la 6e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel, qui est un mécanisme qui a été établi par le Conseil des droits de l'homme. Et ce groupe de travail devra, n'est-ce pas, soumettre le rapport qui a été adopté lundi, à ce qui concerne notre pays, à la prochaine session du Conseil des droits de l'homme qui va se tenir à Genève en mars 2010. Cette précision est importante parce que certaines opinions estiment ou croient à tort qu'il y a un rapport qui a été adopté et qui donc aurait une certaine force quelconque à l'égard de notre pays. Il n'en est rien.
On parle tout de même d'un rapport d'examen de la situation des droits de l'homme à RDC.
Oui, il s'est agi précisément d'un dialogue. Un dialogue participatif entre les différents États, membres du Conseil, évidemment, et les observateurs, sur la situation des droits de l'homme telle qu'il a été présentée par notre pays, donc le rapport national sur la situation des droits de l'homme. Mais il y a eu aussi des rapports présentés aussi bien par les ONG que par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et donc autour de ces différents rapports, il s'est engagé un dialogue. Ce dialogue a donné lieu, n'est-ce pas, à une série de recommandations. Et donc selon les pratiques, l'État examiné, à l'occurrence la RDC, a le loisir d'accepter les recommandations qui paraissent être acceptables, d'en réserver d'autres pour sa décision ultérieure, mais également de rejeter celles qui ne sont pas défendables.
Oui, mais parmi les recommandations, il vous a été demandé, par exemple, c'est-à-dire au gouvernement de la RDC, de mettre fin à l'impunité dont jugent les militaires et les miliciens accusés de graves violations des droits de l'homme.
Dès lors que nous avons accepté et affirmé en liminaire que nous sommes engagés dans une politique implacable de lutte contre l'impunité, vous connaissez la politique tolérance zéro, qui non seulement connaît des effets palpables sur le terrain, mais qui a été réaffirmé le même jour dans le message du chef de l'État à la nation. Il est donc inconcevable qu'on dise que la RDC refuse. Là, il y a un problème. Donc,
oui, mais là, monsieur le ministre, là, ce sont des déclarations. Là, ce sont des déclarations, mais en pratique, sur le terrain, quand par exemple les États-Unis et l'Italie vous demandent de livrer Bosco Ntaganda, qui est accusé ou plutôt poursuivi pour crime de guerre, ce serait quand même un acte pratique et concret de lutter contre l'impunité.
Je voudrais que nous revenions au rapport du groupe de travail sur l'examen universel qui est adopté à Genève et non pas se référer à des déclarations de la presse. Les États sont libres d'exprimer leur opinion. Ce sont des opinions. Et l'État examiné a les loisirs d'accepter, de réserver ou de rejeter. Et donc, jusque la décision du Conseil de l'Homme, qui aura lieu en mars 2010, il y a des choses qui peuvent évoluer. Ça, c'est un des deux. Ça étant ce que c'était sur le terrain. Nous le disons et nous réaffirmons que la politique de lutte contre l'impunité est une réalité. Il suffit de se rendre compte du nombre de décisions judiciaires qui sont rendues actuellement aussi bien par la justice militaire que par la justice civile pour se rendre compte qu'au fin du chemin, et ça nous l'avons dit, nous avons produit des chiffres, nous l'avons dit. Donc, lorsqu'un État estime pouvoir maintenir sa position, il lui est la vie, c'est sa liberté. Mais nous sommes État souverain, nous sommes en train de faire le travail et nous avons...
Monsieur le ministre, parce que le Congo veut s'engager, c'est tout au plus la déclaration officielle de la RDC à s'engager dans la promotion des droits de l'homme, mais pourquoi par exemple le gouvernement congolais refuserait aux experts indépendants, que ce soit des ONG ou de l'ONU, d'inspecter les lieux de détention gérés par les services secrets et la garde républicaine?
Encore une fois, il faut être clair. Nous sommes engagés dans la promotion et la défense de tous les droits de l'homme. Nous avons dit que tous les centres ou mieux les lieux de détention peuvent être ouverts. Et donc, il n'y a aucune raison à particulariser tel ou tel autre lieu. Nous sommes en pourparler avec le bureau du Haut-Commissariat de l'Homme, nous sommes en pourparler avec la Croix-Rouge internationale qui estime qu'ils ont eu par moment, dans le cadre de leur mission, un certain nombre de réticences à certains endroits. Et donc, ces questions sont débattues et donc, encore une fois, l'approche aujourd'hui de la question de l'homme est une approche basée sur un dialogue. Il n'y a aucune confrontation, donc il n'y a, à mon sens, aucune raison.
Mais ça se concrétise quand même par des actes concrets sur le terrain, à lieu place de se limiter aux déclarations d'ordre général.
Il n'y a aucune déclaration d'ordre général. Nous parlons de ce qui se fait concrètement. Et nous disons que nous sommes toujours ouverts. Lorsqu'il y a une difficulté quelque part, saisissez l'autorité compétente, et bien la question sera résolue. Donc, je crois, encore une fois, lorsque vous vous rendez compte, j'ai dit qu'il y a eu des centaines de recommandations. Pourquoi s'accrocher à un élément vraiment, parce que tout simplement...
Lesquels, par exemple, vous vous engagez à appliquer sur le terrain?
J'ai dit que nous nous sommes engagés à poursuivre, j'ai dit bien, à poursuivre tous les efforts, toutes les stratégies en matière de lutte contre les violences faites à la femme, à la jeune fille, à l'enfant. Sur toutes les formes, nous avons adopté une synergie nationale à la matière. On continue la lutte contre l'impunité dans l'armée, quel que soit le rang.
Oui, mais quel que soit le rang, il y a les cas à Bosco-Ntaganda, par exemple. Là, vous ne vous engagez pas.
La politique du gouvernement est claire à ce qui concerne Bosco, que les impératifs de la paix priment. Ça, cela a été dit. Clairement, nous l'avons affirmé, et donc ça ne servait à rien de venir là-dessus.
Vous êtes ministre des Droits humains, vous n'allez quand même pas accepter qu'il y ait des gens qui soient détenus dans des cachots secrets, sans que la justice, et même les ONG n'aient accès à ces personnes-là.
Non, moi, je ne sais pas s'il existe une prison ou un cachot secret. Parce que, à ma connaissance aujourd'hui, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'application des instructions qui ont été données par la haute hiérarchie, toutes les procédures, n'est-ce pas, en cours, sont sous la surveillance stricte de la justice. Et donc, lorsqu'il y a des cas, tel que vous l'affirmez qu'il existerait, mais qu'on nous les indique pour que nous puissions agir. Parce que ceci est notre travail, en fait.
Ben, il y a des chefs de travaux, par exemple, qui sont détenus dans les cachots de l'ANR. Les ONG l'ont dénoncé la semaine dernière. Un chef de travaux délié qui s'en a un autre de l'UPEN.
Oui, mais bien, donc, dès que je vais rentrer au pays, je vais vérifier pour savoir exactement est-ce qu'il n'y a pas un lien avec les procédures qui sont étendues dans l'affaire firmée en Gambie éventuellement. Donc je n'ai évidemment aucun élément précis, mais je suis tenté de croire qu'il y a effectivement des procédures qui sont en cours. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, nous prenons des mesures conséquentes pour remédier à la situation.
Monsieur le ministre, une dernière question. Comment est-ce que vous définissez vos relations avec les ONG des droits humains qui travaillent sur le Congo?
Je crois que nous sommes toujours très ouverts. Nous avons un dialogue qui continue. Ceci s'est confirmé dans le cadre du mécanisme universel, de l'examen juridique universel, où les ONG ont participé. Et nous continuerons également avec elle à pouvoir assurer la mise en œuvre de toutes les recommandations, cela évidemment dans le respect strict des lois qui régissent notre pays et qui régissent particulièrement la fonction et le statut des défenseurs des droits de l'homme.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.